Ce soir à l'émission, on a en entrevue Thomas Chiasson-Lebel des Nouveaux Cahiers du Socialisme qui est là pour nous parler de lancement du numéro 8 des Nouveaux Cahiers du Socialisme. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Oui, alors est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que c'est les Nouveaux Cahiers du Socialisme? Qu'est-ce que vous faites exactement?
Ben, en fait, on a commencé comme étant le collectif d'analyse politique en 2006. Un groupe d'amis d'âges divers, on voulait trouver une façon un peu autonome, indépendante de s'impliquer en politique. On a commencé par faire tout d'abord des ateliers politiques, des ateliers de formation qui ont pris d'abord la forme d'une petite école qu'on organisait au sein du Forum social québécois qui a eu lieu en 2007. Et puis ensuite de ça, après une année et demie, 2 ans de réflexion, on s'est dit qu'on allait se lancer dans l'aventure de publier une nouvelle revue de gauche au Québec. Donc on s'est lancé là-dedans. Ça a été une aventure périlleuse au
Oui,
début, mais
sûrement.
finalement, oui, c'est ça. On a réussi à sortir le numéro 1 en janvier 2009 sur les classes sociales. Puis depuis ce temps-là, on réussit à publier 2 numéros par année. Sur des thèmes divers, mais tous un peu en lignée à gauche, comme on le souhaite, là.
Donc, je vois que le prochain numéro va traiter d'éducation supérieure. C'est assez d'actualité.
Oui.
Comment est-ce que vous avez... De quoi de plus... Disons que l'éducation supérieure, c'est assez large comme thème. De quoi précisément vous allez parler là-dedans?
Ben, en fait, c'est ça, le numéro, on l'a pensé en août de l'année dernière, quand on savait que la grève s'en venait, mais qu'on était... Je ne savais pas encore quelle forme ça allait prendre. Hein.
Oui,
Et
donc
puis, on a commencé à vouloir... Pardon?
6 mois plus tard, ça doit être tout à fait intéressant, non?
Oui, ben c'est ce qu'on a réussi à capter, je pense, c'est un peu toute l'esprit de contestation, de critique qu'il y a par rapport à la forme que prennent les universités en ce moment, l'espèce de virage utilisateur-payeur capitaliste qu'on essaie de lui donner. Donc, c'est un peu cet esprit de critique-là qui existait en amont de la grève qu'on a réussi à capter en allant chercher divers auteurs qui sont autant des universitaires qui réfléchissent sur l'université que des militants du milieu universitaire donc qui ont écrit des textes plusieurs qui sont assez décapants sur la situation de l'université. Et donc le numéro s'est réalisé pendant que la grève se développait, c'est ça qui est assez particulier, avec les auteurs qui s'adaptaient un peu au fil du temps avec l'ampleur que prenait le mouvement qu'on n'aurait absolument pas pu prévoir quand on a commencé à penser le numéro en août de l'année dernière.
Ouais, donc est-ce que le numéro va couvrir l'ensemble de la grève jusqu'à tout récemment, ou bien est-ce que il y a une espèce de flou par rapport aux derniers développements, là, bon, la fin de la grève, tout ça, est-ce que vous parlez de ça aussi, ou c'est plutôt
Non, nous,
généralement
ben,
des réflexions politiques
la particularité du numéro, c'est comme il a été préparé pendant la grève, c'est pas une analyse, c'est pas un numéro qui fait l'analyse de la grève. L'introduction fait un peu plus de ça, mais c'est vraiment la force du numéro, c'est vraiment de capter, je pense, la pensée qui était en amont du mouvement, les réflexions qu'il y avait de critique du tournant que prend l'université. Parce que finalement, en fait, une des particularités qu'on peut voir de la grève, c'est que si elle parlait bel et bien d'éducation tout le long, elle a parlé aussi de beaucoup d'autres choses.
Ouais.
Donc nous, on n'a pas élargi à toutes ces autres choses-là. On est resté concentré sur les critiques qu'on peut faire de l'éducation supérieure. On a des articles, notamment, qui parlent bien que les frais de scolarité soient un enjeu central, quel a été l'effet des bas frais de scolarité? Est-ce qu'on a réussi à augmenter dans les 30 dernières années l'accès des différentes classes sociales à l'éducation supérieure? Et on peut se rendre compte que les frais de scolarité sont un facteur très important, mais malgré ça, il y aurait encore des efforts à faire pour réussir à même en maintenant les frais de scolarité très bas ou en ayant la gratuité scolaire, on aurait d'autres efforts à faire pour augmenter encore cette accessibilité-là. Donc il y a ça, on traite aussi de la dynamique de la financiarisation que prennent les dettes d'études. Hein?
Ouais.
Un article d'Éric Pinault sur ce sujet. Comment on peut utiliser des outils dont les étudiants ont besoin pour accéder à l'université, comme que sont les prêts, pour les transformer en actifs qui sont valorisés, qui sont valorisables et qui sont l'objet d'une spéculation financière. Donc, on essaie d'aborder très largement quels sont les enjeux et comment se structurent les attaques qui sont faites à l'université pour empêcher un peu une mission qu'on lui souhaiterait, hein, une mission de transmission de connaissances passées, d'un apprentissage critique, d'une certaine créativité. Donc, c'est un peu à tous ces enjeux-là qu'on touche. Là.
Mm-hmm. Est-ce que vous abordez peut-être un peu le sujet aussi du contenu, la tangente un peu néolibérale de l'éducation actuelle? Est-ce que vous avez des textes sur ce sujet-là ou c'est surtout l'idée générale d'université?
Plusieurs textes abordent cette question-là. Mm-hmm. On a un texte, notamment un texte de Jacques Pelletier qui analyse la transformation de la structure de l'UQAM. C'est intéressant de voir comment, à sa naissance, par exemple, l'UQAM avait vraiment une structure qui se voulait alternative, avec un espace pour la participation de la communauté dans la définition des programmes, avec un espace pour le respect de la liberté intellectuelle des professeurs. Et il analyse comment cette structure-là en est venue à se modifier de plus en plus pour que la recherche vienne un peu prendre un espace qui détermine certains des enjeux qui sont traités à l'université. En fait, je pense que l'ensemble du numéro, on peut bien le voir comme étant une critique du virage néolibéral que prend l'éducation. C'est surtout là-dedans, je pense, que le numéro est fort. On a même un article d'un ami, Antoine Casgrain, qui a écrit un article sur le Chili, où l'université est probablement parmi les plus néolibérales qu'on connaît.
Oui.
Et il montre à quel point c'est un désastre. C'est un désastre notamment parce que ça devient une marchandise qu'on vend un peu n'importe comment, plutôt que de produire une augmentation de la qualité, produit une hiérarchisation des institutions. C'est-à-dire que des institutions pour les gens qui ont plein de fric, qui leur donnent une éducation qui leur permet d'accéder à des postes où ils vont avoir encore plein de fric. Et ceux qui n'ont pas d'argent sont dans des petites universités où ils payent très cher, où ils s'endettent, mais où leur formation ne leur permet pas vraiment d'aspirer à quelque chose de mieux.
Mm-hmm. Donc, mardi soir, c'est ça, vous avez un lancement avec un événement. Je vois qu'il va y avoir un panel, c'est ça?
De quoi
va être le panel? De quoi ça va traiter?
Demain soir, on a un panel, c'est ça, on organise un événement lancement qui va avoir lieu à partir de 18h-18h30 au Brouhaha Pub. On va avoir trois intervenants, deux personnes qui ont écrit des articles dans le numéro, et on va avoir également une représentante de la classe qui va venir nous parler de comment ça se passe, parce qu'évidemment, on voulait pas être complètement distancé de l'actualité politique.
Mm-hmm.
Hein. Alors deux auteurs qui vont venir nous parler de leur article, entre autres Marie Blais qui va venir nous parler d'une perspective syndicale, de comment les gens à l'intérieur des syndicats ont pu lutter contre la marchandisation de l'éducation. Et voilà, on va avoir aussi Camille Robert qui va nous parler des dernières positions de la classe sur cette question. Et on va pouvoir se procurer le numéro à cet endroit-là, les numéros précédents aussi, parce que c'est le numéro 8 quand même,
ouais,
pas
bien,
le premier.
Bien joué.
Et puis, je pense que je peux même annoncer qu'on a eu une promotion cette année. Ceux qui viennent et qui achètent un numéro pourront avoir une bière gratuite au lancement.
Ça donne envie d'y aller.
Voilà.
Mais moi, j'avais une petite question aussi sur, en fait, comment la grève a influencé. Vous avez dit que vous aviez modifié ou vous êtes adapté un peu par rapport à ce qui se passait pendant la grève. Donc, de quelle façon ça a pu améliorer vos réflexions ou remettre vos réflexions en perspective?
Je pense que la grève a été... tous les auteurs se sont sentis obligés de se positionner un peu par rapport à la grève, hein, d'inclure qu'il y avait un mouvement qui se produisait, d'y jeter un regard particulier. C'est difficile de résumer tout ça parce que, en fait, c'est une collection, c'est une revue, c'est toujours une collection d'articles, donc les différents auteurs ont pu adopter des perspectives différentes. Je pense que la perspective principale que ça a donné, c'est de se positionner dans un contexte de lutte sociale, donc de quel côté on se situe dans cette lutte-là et qu'est-ce qu'on aimerait qu'elle réussisse à obtenir. Donc ça, je pense que ça a été quand même une influence sur les auteurs d'une part. D'autre part, je pense que la grève nous a aussi, c'est un peu ce qu'on dit dans l'introduction, là, la grève nous a un peu fouetté à repenser la façon dont on entrevoit la relation avec l'État. Parce qu'évidemment, on veut une éducation publique, on veut une éducation gratuite, on veut une éducation donc supportée par l'État. Mais en même temps, on s'est rendu compte dans cette grève-là que l'État est loin d'être un acteur neutre. Hein.
Mm-hmm.
L'État a été très, très efficace pour déployer des appareils répressifs extraordinairement violents. Mais ce même État a été très, très peu efficace pour contrôler les dérives de corruption qui ont eu lieu dans les deux dans les dernières années au Québec. Donc, repenser la question de l'éducation dans ce contexte-là, c'est aussi, je pense, un peu un effet de la grève qui nous a fait voir un peu l'hypocrisie de la neutralité de l'État, si on veut, le déploiement de cette lutte sociale incroyable.
Mm-hmm. Et je vois que, enfin, le nouveau cahier du socialisme, c'est plus qu'une revue. Vous avez aussi des universités populaires, tout ça.
Oui.
Donc, peux-tu nous en parler un peu plus?
Oui, bien sûr. Ben, on essaie toujours d'organiser quelques autres événements au courant de l'année, des événements de réflexion politique, des événements de débat. Là, on vient tout juste de clôturer notre troisième université d'été, il me semble, qui avait lieu en août. Ça a été un peu difficile de planifier parce qu'on ne savait pas quand est-ce que les écoles que les cégeps et universités allaient reprendre. Finalement, ça s'est tenu. On a eu une super belle participation, beaucoup d'intervenants et ainsi de suite. On refait ça à peu près à chaque année. On a déjà un plan, je pense, il va falloir que ce soit approuvé par les instances, mais on a déjà l'idée de le refaire l'année prochaine. Et bon, les autres activités, ça dépend un peu du fil des événements. On peut les suivre sur le site internet cahierdusocialisme.org, qui malheureusement en ce moment ne fonctionne pas parce que je pense qu'il y a eu une attaque sur le serveur de nom de domaine et on n'est pas la seule organisation, mais il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas de site internet en ce moment-là.
OK.
Mais sur le site internet cahierdusocialisme.org, on affiche toutes nos activités. Mm-hmm. Il y a aussi quelques articles de réflexion qui sont publiés, tout ça. Donc, les articles du numéro eux-mêmes ne sont pas publiés parce que on n'a pas encore trouvé la bonne façon de faire en sorte d'être capable de faire survivre la revue papier si on ne distribue pas tous les articles. Mm-hmm. C'est un beau défi qu'on est en train de se lancer en ce moment. Mais il y a plein d'autres articles des auteurs des numéros, des gens qui coordonnent les numéros qui sont présents sur le site internet.
Mm-hmm. Donc en tant que participant, je pourrais dire à l'éducation alternative au Québec, est-ce que vous avez peut-être publié des textes par rapport à une perspective plus pratique dans votre prochain numéro? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'éducation pratiquement? Est-ce que vous avez fait cette réflexion-là?
Oui, on a un article. Devlin Couturier sur les universités populaires, parce que évidemment il y a des modèles pour faire de l'éducation populaire qui sortent un peu de l'université institutionnelle que telle qu'on la connaît, supervisée par l'État. C'est évidemment pas, je pense qu'il n'y a personne qui propose les universités populaires comme étant la seule alternative. Il faut mettre les universités par terre et faire des universités populaires. Là, il n'y a personne qui propose ça, mais ça, c'est, je pense, parmi les expériences très intéressantes qui explorent ces éléments-là. Par ailleurs, un des auteurs qui a publié un article, Normand Baillargeon, suggérait aussi, un peu moins dans celui-ci, mais dans d'autres écrits, l'idée que certaines universités se sont fondées par la séparation de certaines parties des professeurs de l'institution principale pour fonder quelque chose d'autre, fonder quelque chose d'alternatif. C'est le cas, entre autres, de la New School aux États-Unis, à New York. Donc, oui, il y a quelques éléments qui sont explorés là-dedans. C'est certain que, je pense que pour être honnête, il faut dire que le numéro se concentre sur la critique du temps présent. On aborde quand même certaines formes de résistance, comme celle que je viens de mentionner, et certaines formes de résistance à l'intérieur de l'université aussi, notamment le syndicalisme des employés étudiants. On parle également, dans d'autres numéros, on avait aussi parlé de ces éléments-là. Donc, des résistances aussi au niveau collégial, parce que quand on parle d'enseignement supérieur, on parle aussi du niveau collégial. Donc, on touche à différentes alternatives de résistance et des alternatives au niveau de création d'une autre université aussi dans ce numéro-là.
Parfait. Ben merci beaucoup, Thomas. C'est tout le temps qu'on a. On va rappeler l'événement mardi, ben demain soir, à 18h, c'est ça, au Brew Pub, 5860 Avenue de Lormier. C'est bien ça?
Oui, c'est exactement ça. Je vous remercie beaucoup. Parfait. Le lancement va avoir lieu donc demain soir, vers 18h, 18h30. C'est sur Delormier, au coin des Carrières. Ils font une bonne bière maison à cet endroit-là.
Et votre site web est cahier avec un S socialisme.org, si je ne me trompe pas, quand il va refonctionner.
Oui, c'est ça. Quand on a dit que c'était Anonymous à quelque part, là, mais moi, je sais pas si c'est Anonymous ou c'est des gens qui se sont infiltrés dans Anonymous. Mais on espère que ça va revenir bientôt.